Kill Bayat, un podcast présenté par Anthony Mazur et Pia Pandelakis.
Désir d'objet cette fois, on bascule dans l'histoire déjà ancienne du design, à savoir les tensions, les relations entre humanisme et capitalisme, et pour ça, la bagnole est au cœur. Alors, je vous entends déjà, chers auditeurs, maugré, non, on ne parlera pas des voitures autonomes, ça a déjà été traité ici, puis c'est un peu tarte à la crème en fait. Les voitures autonomes vont-elles arriver? Ben en fait, la réponse est oui, elles sont déjà là, donc il faut en prendre acte. C'est plus la science-fiction comme on dit.
Tout à fait, et puis bon, alors finalement la voiture est un thème quand même assez éculé. On va être obligé de redire des choses qui sont extrêmement clichés. La voiture, c'est finalement depuis les années 50, au moins aux États-Unis et puis sans doute dans tout le monde occidental, le désir ultime du citoyen moyen qui suit ce qu'on lui dit dans la société de consommation. On a une voiture individuelle pour aller de son suburb, c'est-à-dire de sa banlieue à la ville, avec une magnifique division travail-domesticité. Alors là, j'anticipe un peu, ça va nous ramener aux questions de genre, mais promis, je vous fiche la paix avec ça jusqu'à la fin de l'émission. Nous, ce qu'on va... on verra bien, on prend les paris. Ce qu'on voulait dire avant toute chose, c'est sur ces questions de bagnole, c'est ne pas parler de la voiture en tant que telle, mais bien de la resituer dans un environnement d'objets. Ça, c'est un concept qui nous est cher, c'est de jamais considérer les objets comme des unités autonomes, justement, et isolées, mais bien comme des objets pris dans un réseau de fonction. Et donc justement ce que tu disais Anthony, on parle toujours de voiture et science-fiction comme si c'était un enjeu énorme. On lit des titres d'articles du type « La voiture autonome, ce n'est plus de la SF ». Moi, je trouve très éloquent le fait que des contenus de fiction contemporains comme Black Mirror n'investissent que très peu la voiture, finalement, relativement à d'autres problématiques, ou alors dans des ressorts scénaristiques qui ne tiennent pas du tout de la SF. Par exemple, dans un épisode de Black Mirror, il y a un accident de voiture, mais enfin, qui est décorrélé des questions de technologie. Ou alors, on a un épisode dédié à la popularité. Et effectivement, là, la dégringolade sociale du personnage qui perd tous ses points de popularité, cette dégringolade est incarnée dans la perte de la voiture, donc on a une forme de cloud score poussée au paroxysme. Alors juste aussi, on nous a dit d'arrêter de jargoniser outre mesure, donc le cloud score c'est une cumulation de tous vos scores de popularité sur les réseaux sociaux.
Oui, qui donne un score sur 10 ou 100, je ne sais plus trop, mais voilà, plus on est élevé, plus on a droit à des réductions des hôtels, avions, etc.
Ouais, alors on va arrêter quand même à chaque fois de faire les explications, ça fait diminuer notre cloud.
Non, cela étant, donc dégringolade sociale du personnage, comme je le disais à l'instant.
En gros, elle est fauchée.
Elle est fauchée, mais surtout, c'est pas très original. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'argent, votre voiture est pourrie. On n'a pas besoin d'avoir des voitures hyper techniques ou technologisées, entre guillemets, pour ça.
Comme quoi, tu as une histoire de cycliste fauché socialement, mais toi, tu n'as plus d'argent pour la radio. Bon, c'est un peu compliqué la voiture en ce moment, quoi. Et à Paris, c'est encore pire. Là, il y a. Je lisais récemment les articles des mass médias qui sont en quête des vrais gens parce qu'il y a les voies sur berge qui ferment, c'est réaménagé. En gros, les vrais gens pour les mass médias, c'est ceux qui ont une voiture. Voilà. Les autres, on ne sait pas trop. Mais...
Et pourtant, vous avez deux vrais gens dans ce studio qui n'ont pas de voiture. Je crois qu'il y en a même un qui n'a pas le permis, je ne donnerai pas de nom.
Mais je l'ai.
Tu l'as.
T'es mais... de mauvaise foi.
Mais alors, moi, c'est moi qui l'ai. J'ai 10 ans.
Ah merde, c'est moi qui ne l'ai pas.
Non, alors je tiens à dire que j'ai mon permis, mais je dois avoir peut-être 100 heures cumulées de conduite depuis 10 ans. Désolée, je fais encore du gonzo.
Je suis pas sûr d'en avoir autant.
Bon, pour revenir aux vrais gens et aux aspects politiques, moi je suis toujours frappée de voir à quel point la voiture est un enjeu électoral, c'est-à-dire un enjeu politique, enfin en tout cas une partie de la politique. On n'a qu'à voir Anne Hidalgo, hein, que par ailleurs je porte pas trop dans mon cœur, mais pour d'autres raisons, a fait les frais hein, de cette question de la politique de la voiture dans la ville, en faisant ses choix d'ouvrir des voies sur berge et de repousser les voitures hors de la ville. Pourquoi ? Alors, une possible explication qui, moi, m'intéresse, c'est qu'en repoussant les voitures hors de la ville, on peut aussi repousser les moins favorisés. Même si, bon, Anthony, tu vas dire que je radote sur les questions de classe. Du coup, je passe à autre chose, la voiture et son écosystème. Moi, j'aime bien considérer des points de détail sur la voiture. Et notamment, je l'avais fait en parlant des clés de bagnole au cinéma. Alors, c'est bien joli de parler de voitures et de technologies embarquées, mais il faut donc toujours recontextuer la voiture. dans les autres objets. Ça peut être les clés de bagnole, ça peut être la place de parking, on en partira tout à l'heure. Et donc j'aimerais pour commencer qu'on s'intéresse au passé de la voiture et donc qu'on prenne le sujet à rebrousse-poil. Il y a un super article de Nautilus qui demande si les voitures n'auraient pas sauvé nos villes des chevaux. En effet, quand à la fin du 19e siècle, début du 21e siècle, 20e siècle, pardon, les voitures sont arrivées, on les considérait comme des objets écologiques puisqu'elles sauvaient la ville de ses chevaux et donc de ses kilos de purin qui étaient déversés dans les rues.
Oui, c'est sur de la modernité. C'est aussi la construction des grands axes pour qu'on puisse circuler ou voir des chars d'assaut à Berlin-Est. Et ces rues pleines de purin, bah, c'est drôle parce que, comme toujours, il y a une application pour ça. Et donc, au Japon, il y a une application pour signaler les crottes de chiens non ramassées. Alors après, est-ce qu'on se ramassait Si, je crois que tu avais trouvé une sorte de motocrotte assez drôle au niveau du design japonais. Mais...
Oui, alors bah, au Japon, il y a toujours des trucs sympas et un peu bizarres. Après, honnêtement, j'ai été un peu déçue. Ça ne fait que ramasser les crottes. Je pensais que ça serait un peu augmenté, qu'il y aurait des fonctionnalités sympas. Ou qui sait, un emoji caca géant perché sur le,
bah, c'est plus
sur
populaire,
le dos de la moto.
Au Japon, figure-toi, cet emoji, il a été intégré assez récemment dans Gmail. Google ne voulait pas, mais tellement populaire qu'ils ont dû quand même le rajouter dans les emojis de Gmail.
Il était dans le jeu originel de NTT Docomo, donc ça remonte à 97.
Je vous arrête, on a atteint le point caca dans la conversation.
Ah, mince !
Et on n'est que au début de l'émission. Alors je reviens sur nos moutons et peut-être en te lançant, Anthony, sur une question qui moi m'intéresse, c'est cette relation téléphone-voiture. Parce que voiture et technique, ça, bon, je pense qu'on a compris que c'était pas trop le sujet qu'on voulait aborder. Mais le téléphone et la voiture, pour le coup, sont des objets de la modernité.
Bah, Kill Baya, ouais, on doit quand même parler de ça. Et ce que tu dis m'intéresse, que la voiture est effectivement l'emblème du 20e siècle et 21e siècle, bah, l'objet peut-être c'est le téléphone. Après tout, l'iPhone a été vendu à 1 milliard d'exemplaires à peu près, si on prend tous les modèles cumulés. Et du coup, certains se plaignent que ça évolue pas, même un téléphone à 1 000 euros, pas grand chose de plus. Donc peut-être que ça tombe à plat, le téléphone à présent, un peu comme les voitures qui se renouvellent pas tellement. Tu sais ce que disait Nicolas Nova sur le fait qu'on n'ait toujours pas de voiture volante?
Les voitures volent toujours pas, remboursées.
Ben, à la place, c'est ce que disait Peter Thiel, le fondateur de PayPal, on a eu 140 caractères, on peut pas se plaindre de tout. Bon, un peu plus maintenant, 280, ça s'élargit comme d'autres choses. Donc la voiture, c'est un objet étrange parce qu'on a, finalement, c'est très paradoxal, on a l'impression qu'elle ne change pas beaucoup, certes elle vole pas, pourtant elle a subi déjà énormément de mutations. Peut-être les Rolls-Royce ont toujours cet emblème que Rin Panofsky... l'historien de l'art a banalisé, mais sous le capot, quand même, c'est plus trop la même chose. Donc finalement, est-ce que ça a encore du sens de parler de carrossage à propos des voitures? Est-ce que c'est pas plus compliqué que ça?
Bah, c'est vrai que quand on est dans une orientation sur la culture du design et qu'on s'interroge sur la question des voitures dans l'histoire du design, on pense immédiatement à ce qu'a fait Raymond Loewy pour la Studebaker, on pense immédiatement à la Citroën DS par Bertoni Lefebvre, et bien sûr sur la DS, il y a les extraordinaires textes de Barthes dans les mythologies. D'ailleurs, je les ai relus pour l'occasion et il y a vraiment toute cette question de l'apologie du lys. Et je me disais, mais c'est quand même super intéressant parce que Barthes voyait dans la DS une apologie du lys et on voit qu'on le retrouve avec les téléphones aujourd'hui. Finalement, l'iPhone est un objet extraordinairement lisse, muet et peut-être encore plus muet que le carrossage lisse de la DS. Du coup, moi j'ai envie de me demander, bah, peut-être qu'on peut laisser de côté ces questions de peau, la partie lisse, visible, et se poser la question d'un design invisible, peut-être un design d'interaction. Je ne sais pas, Anthony, ce que tu en penses.
Est-ce que ça a encore du sens de séparer l'intérieur de l'extérieur dans le design? C'est aussi Baudrillard qui parlait de l'aile de la voiture, toujours cette idée d'aérodynamisme ou d'envol. En tout cas, cet invisible, c'est lié à une promesse d'autonomie. C'est effectivement, on va quand même parler un tout petit peu de l'autonomie, mais ces promesses de voiture qui conduiraient sans nous, qui conduiraient nos vies, vu qu'on est incapable, on est tellement stupide et désorganisé de conduire nous-mêmes. La raison humaine est bien trop faillible, c'est ce que disent les auteurs de « Quand la raison faillit par de l'esprit », ces auteurs parlent de bol de mélasse de la raison humaine qu'il faudrait remplacer par quoi? Bah, par du calcul rationnel, vérifiable, prouvable.
J'ai l'impression qu'il y a comme une dualité, on le voit là dans notre discussion, entre deux choses, c'est-à-dire des voitures autonomes qui sont là, qui existent, mais qui en même temps sont un peu un point aporique de la conversation parce que finalement on ne sait pas trop quoi en dire. Et puis ces fameuses voitures volantes qu'on nous promettait qu'on n'a pas, et qu'on a, parce qu'en fait, justement, à Dubaï, ils les ont, apparemment, dans The National, et apparemment, cet été, les voitures ont commencé à voler à Dubaï. Il y a aussi plein d'autres projets, le projet Terrafugia, apparemment, c'est un projet qui a 11 ans. Il y a une entreprise slovaque qui s'appelle Aeromobile, alors dont la tagline est quand même The future is coming. Le futur arrive. J'ai essayé de compter le nombre de fois où ils utilisaient le terme aérodynamique dans leur site, j'y suis pas arrivée. Et le Vahana d'Airbus, dont on nous dit qu'il va être peut-être une ambulance, mais aussi une limousine, parce qu'il faut pas rigoler quand même, c'est mieux que ces technologies restent réservées aux riches.
Donc à faire, ouais, enfin bon, ton drone taxi, ça va bien faire rêver Uber. Ils ont même pu gérer des chauffeurs qui se mettront en grève ou qui vont bloquer la place de la Concorde.
Bah tu crois pas si bien dire, il y a un service qui s'appelle Uber Elevate. Alors franchement, allez regarder la vidéo, on vous explique que c'est génial, il y a plein d'embouteillages et si on emmène le trafic dans le ciel, les problèmes seront résolus. Mais vous n'avez pas vu les 150 films de science-fiction qui montrent qu'il peut aussi y avoir des embouteillages dans le ciel. Mais bon, on n'en est pas là encore pour le moment. Mais c'est une vraie question. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent. Ils ont un pôle de recherche qui intègre ça. Hein.
Ouais, K2000, ça me parlait plus. Mais en tout cas, Pia, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que dans cette quête d'autonomie, il n'y a pas des résurgences super fortes de la cybernétique, cette science du pilotage qui promettait d'organiser toutes nos existences dans les années 60 et avec ces voitures télécommandes, l'application, les lignes de service, on est encore là en fait. On commande n'importe quoi du dehors depuis son habitacle, depuis son petit chez-soi.
Oui, et puis ça a un effet de design tout à fait clair avec le modèle du tableau de bord. Alors je l'ai étudié pas mal parce que cet été, je me suis amusée à tester des applications de gestion des règles, les règles féminines donc, enfin... même si je déconstruis cette idée, mais bref. Mais tout ça pour vous dire que même dans un sujet qui a l'air aussi éloigné de la voiture, on retrouve le modèle du tableau de bord. Bientôt, on aura un tableau de bord pour tout, pour gérer son quantified self, son sport, son enfant, son chien.
Bah, ça tombe bien que t'en parles, parce qu'Apple justement a lancé quelques années, mais ça c'est récent, ce CarPlay, ce tableau de bord, où on peut du coup déporter son téléphone dans son habitacle, passer des coups de fil, regarder la météo, etc. On peut tout gérer, Siri, et dans la voiture. Mais peut-être vous voulez dire quelque chose des GPS et de ces environnements-là aussi ?
Non, moi je voulais faire un petit peu un point troll parce qu'on n'arrête pas de parler de la connexion téléphone-bagnole, que ce soit avec Uber, les apps de contrôle de parkmètre, de parking, de GPS ou que sais-je. Mais il y a un lien qui est évident aussi entre téléphone et bagnole aujourd'hui, c'est la voiture piégée et ça reste quand même dans les imaginaires quelque chose de très important et on ne peut pas connecter les deux sans les rapprocher. Pourquoi je dis ça ? C'est pas uniquement une question de trolling, c'est aussi qu'il faut parler de la relation de la communication à la voiture. Je ne parlerai pas de la CB ici parce qu'on n'en a pas le temps. Mais en fait, la petite idée qu'on va amener un petit peu plus tard dans l'émission, c'est la voiture comme super téléphone, mais juste après une petite page de publicité.